des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois cette émission des livres plein les oreilles. Et Dieu sait s'il en sera question de bouquins. Aujourd'hui, vous n'allez plus savoir où donner de l'oreille, ça je peux vous le garantir. Alors, on commence l'émission avec Jeannine Vanier. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas entendu Madame Vanier nous parler d'un livre. Il sera beaucoup question dans la première partie de premier roman. Je ne vous en dis pas plus, mais je peux vous dire que j'ai trois invités pour nous en parler, qui sont Marine Gurnad, directrice de la librairie Gallimard, Elsa Pépin, qui a écrit un premier roman qui s'appelle Les Sanguines et qui vient tout juste d'être disponible au SQLA en format audio, et également Stéphanie Lemété, qui représente ici l'UNEC. Et puis également aujourd'hui à l'émission, qu'est-ce qu'on va avoir? Nicole Châtelain, bénévole, qui va venir nous parler d'un livre, Qui suis-je quand je ne suis pas moi? C'est un livre sur la bipolarité. L'extrait du jour, ce sera un extrait de Les Sanguines, d'Elsa Pépin, ici présente d'ailleurs. Et puis la bande-annonce pour la semaine prochaine, et puis quelques nouveautés en rafale. Et puis à quoi s'attendre au Salon du Livre cette année? Madame Jeannine Vanier, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Comment allez-vous Jeannine?
Très bien, merci, vous-même?
Très très bien. Alors vous lisez toujours beaucoup?
Oui, je lis des choses différentes.
Différentes. Oui. Toujours en braille, hein?
Bien, dans l'audio aussi.
Ah, dans l'audio aussi. OK.
Oui, oui.
OK, je pensais que vous étiez...
Non, je fais les deux.
D'accord, d'accord. Alors, parlez-nous d'un livre dont vous nous... Voilà, je vais finir par le dire, dont vous avez décidé de venir nous parler aujourd'hui. C'est lequel?
Oui, c'est un livre audio.
Oui.
Ça s'appelle « La promesse d'Émile » par Claire Bergeron.
Bergeron, ça sonne québécois?
Oui, hein? Oui, c'est un auteur québécois.
D'accord.
C'est une histoire triste, malheureusement, mais disons que ça finit quand même assez bien, malgré toutes les séquelles qui vont être en mémoire dans cette histoire. Alors, c'est une famille...
Oui.
Qui a vécu un grand drame parce que le père était un homme tout à fait cruel, je dirais sociopathe, en fait, parce qu'on peut... Alors, ça se passe dans un petit patelin où à peu près tout le monde se connaît, mais personne n'a connaissance de ce grand drame qui est vécu dans cette famille et qui dure des années. Alors, Émile, c'est un des enfants qui fait partie de cette famille. Et à l'âge de 15 ans, il décide de quitter le foyer. Et d'ailleurs, son père préfère qu'il s'en aille. En fait, il faut dire que c'était un caractère fort et ça prenait ça pour... Parce que...
Pour accoter le paternel, si j'ose dire.
Tout le monde était sous la peur.
Oui,
tout le
c'est, monde ça. Était... c'est ça.
Alors, lui, il arrivait à répondre à son père. Puis,
mais le à lui père, tenir tête.
Oui. Mais c'était toujours le père, en plus des coups et de tout ce qu'il recevait, c'était de les humilier puis de leur dire tout ce qu'ils étaient bons à rien. Ils étaient moins que rien.
Alors, il part pas tout seul, hein, Émile.
Pardon?
Je dis, il ne part pas tout seul, Émile.
Non, c'est une famille nombreuse. Hein, ils ont une dizaine d'enfants.
OK. Et il part avec son jumeau, non?
Il part avec Richard, oui, son jumeau. Parce que Richard, lui, contrairement à lui, il est pas mal plus faible. Hein. Et puis, je pense qu'il était bien accroché. Parce que quand il se passait quelque chose, que tout le monde avait peur dans la maison... Souvent, Richard se cachait avec Émile.
Oui.
Il s'accrochait à lui.
Oui, oui. Émile affrontait alors que l'autre, il était un petit peu plus terrorisé hein, par l'influence paternelle, c'est ça.
Alors, Émile, un jour, décide de partir. Il l'amène avec lui et il dit à sa mère, « Un jour, maman, je vais revenir puis je vais vous arracher. Je vais vous délivrer de de cet homme cruel, de cette cruauté. Je vais vous...
C'est une promesse, hein?
Oui, une promesse qu'il fait.
Oui.
Ça va prendre du temps avant qu'il puisse la réaliser parce que, évidemment, j'ai pas tout en mémoire, là, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu.
Et puis c'est bien comme ça, parce qu'il faut quand même laisser un petit peu d'espace à nos auditeurs aussi, hein?
Oui. Alors, Émile, il est parti comme ça. Mm-hmm. Il a dû se trouver un endroit où habiter puis travailler avant de pouvoir étudier parce qu'il a fait des études, je pense, aussi. Alors, en plus de ça, il y avait à la maison une jeune fille, Fabienne, la dernière née, je pense,
oui.
La dernière jeune fille. Et elle aussi, elle décide de quitter la maison parce que elle voit venir ce qui l'attend, là, parce que c'est les filles, là, rendues à un certain âge, là, c'est un autre danger qui les guette.
On imagine très bien de quoi vous voulez parler, Mme
oui.
Bagné.
Alors, elle décide de partir. Naturellement, elle voulait se trouver du travail, mais ses enfants-là n'ont pas eu la chance de s'instruire beaucoup. Alors, elle aboutit comme danseuse dans un bar. Et puis, par contre, dans ce petit patelin, il y a un jeune prêtre
oui.
qui fait beaucoup d'œuvres sociales, qui s'occupe... et il est allé dans ce bar. Et il la voyait, il l'a contactée, il a pris contact avec elle, puis...
Si je vous suis bien, Madame Vanier, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a quand même une très belle galerie de personnages là-dedans. Bon, le père violent, mais les enfants qui vont avoir du mal à réussir, les deux jumeaux qui s'enfuient.
Et puis, la mère, évidemment.
Oui, alors la mère, est-ce qu'il en est question dans ce roman? Est-ce
qu'elle... Oui, mais elle est bien impuissante devant tout ça, parce qu'elle-même, elle est violentée. Et puis, ne peut pas parler.
On est dans quelles années, à peu près? Est-ce que c'est dit? C'est à quelle époque que ça se passe?
Oh, c'est à une époque, je dirais, assez reculée, parce que tous ses enfants, elle les a eus, elle a accouché à la maison.
Hein? Ah.
Et puis, pour le premier-né, le médecin est venu, mais le père a assisté à l'accouchement. Puis après ça, il a décidé qu'il était capable de faire ça lui-même, qu'il ne voulait plus voir le médecin pour les autres qui sont venus après.
Bon.
Alors.
Madame Vanier, quand il va revenir, il va se faire aider par le curé?
C'est-à-dire que.
Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a de la vengeance là-dedans ou au contraire, est-ce qu'on est dans le pardon? On est en gros, là, pour finir l'entrevue.
Ça va venir, le pardon, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer avant.
OK.
Parce que Émile, quand il va revenir, après bien des années, parce que je crois que c'est grâce à Fabienne et puis le petit prêtre qui ont fini par le contracter.
Oui, oui.
Et puis là, il veut revenir, mais il faut qu'il trouve un moyen pour faire arrêter son père.
Oui.
Parce que il profite du fait que la mère va à la messe le samedi soir pour garder ses jeunes filles à la maison puis les violer.
Oh boy!
Alors là, c'est plus acceptable. Il faut faire quelque chose.
Oui, non, c'est ça. Là, il faut que ça aille beaucoup plus loin que ça. Il faut faire enfermer le père, quoi. Et
oui.
ce sera un petit peu la mission d'Émile, c'est bien ça?
C'est ça. Et puis, il a réussi par un stratagème là, incroyable, en tout cas, que je n'aurais peut-être pas exactement arrivé à vous le raconter.
Non, bah, puis on va le découvrir, Mme Vanier, on va le découvrir.
Et puis, il a réussi à faire arrêter son père, et puis il écope de 2 ans de prison. Et puis, un jour, il va revenir, évidemment. Et puis, avant de revenir, les derniers jours, il prépare sa sortie, puis il envoie des lettres, puis il ordonne à sa femme, qui s'était réfugiée chez une de ses filles, parce que ses filles les plus vieilles, une était mariée, elle était réfugiée chez elle. Il lui ordonne de revenir à la maison, coûte que coûte. Et puis, Émile...
C'est assez sombre, hein, Madame Vanier, Janine.
Ah oui, c'est très, très sombre.
Est-ce qu'il y a, dites-moi, rassurez-moi, et ce sera ma dernière question pour aujourd'hui, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir quelque part dans ce roman?
Oui, mais oui? Avant ça, il va y avoir un procès parce que oui. Quand Émile va essayer, quand le père va sortir, il va essayer de le rencontrer, puis essayer de comprendre.
Oui.
Mais il n'a pas eu le temps, le père lui a sauté dessus, puis t'es bon à rien.
Oui.
Alors là, Émile n'en pouvait plus, puis il a tué son père.
Oh boy, bon. Voilà un événement qu'on voyait pas venir, mais maintenant on le connaît. Oh ben ça oui. C'est bon. Ben écoutez, mais
alors
j'espère
là,
que c'est pas bon.
Ça va occasionner un grand procès, puis ça va d'accord. être assez difficile. Puis on va apprendre beaucoup de choses là.
D'accord. Écoutez, Madame Vanier, tout ça m'a l'air effectivement fort intéressant, comme toujours à chaque fois que vous nous parlez d'un livre. C'est tellement gentil à vous. Je voudrais en rappeler le titre, La promesse d'Émile, justement cette fameuse promesse, et c'est signé Claire Bergeron.
C'est ça.
Et ça nous était présenté par Janine Vanier. Merci beaucoup, Janine.
Bienvenue.
Continue à jouer du piano aussi. Hein.
Oui, je l'ai fait accorder justement.
Ah, bravo. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fin de journée.
À vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Il fut un temps où je faisais de la chanson. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître eux. Et généralement, quand je montais sur scène, je disais toujours, si vous me le permettez, la première chanson est toujours tellement difficile à faire passer que je vais tout de suite commencer par la seconde. Et là, j'avais envie de commencer notre discussion d'aujourd'hui avec mes trois invités comme ça, parce qu'on va beaucoup parler de premier roman. Parce que ça en prend un premier à un moment donné. Alors j'ai Elsa Pépin, qui vous êtes chroniqueuse, vous êtes journaliste, Elsa oui. Pépin, vous êtes également auteure et vous venez de signer un premier roman qui s'appelle Les Sanguines. Et ça oui. tombe très bien parce que le mois dernier, il vient d'être rendu disponible pour nos auditeurs, donc en version audio adaptée via le SQLA. J'ai en face de moi, que je ne vois pas au milieu de l'armée de micros, mais je lui vois quand même les petits yeux là-bas, Marine Gurnad. Vous êtes directrice de la librairie Gallimard. Et c'est vous aussi qui chapeautez ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de festival du premier roman, ou est-ce qu'on peut dire que c'est vous qui êtes la tête pensante de tout ça ou...
Non, je ne dirais pas ça exactement. En fait, j'anime un club de lecture
d'accord.
dédié au premier roman.
D'accord.
Et là où je pourrais avoir une place particulière, c'est qu'on est la librairie Gallimard, avec ce club des premiers romans, a été la première en fait à développer ce concept, donc en partenariat avec le Festival de Chambéry, qui est dédié au premier roman en France. L'idée était de créer un volet québécois ici, un club de lecture dédié au premier roman. Québécois et francophone hors Québec.
Parce que là, vous avez donné le mot magique, la précision magique, c'est club de lecture. Autrement dit, ces premiers romans, d'abord, il faut préciser qu'ils ne vont pas gagner de prix, ils ne vont pas gagner un chèque, ils ne vont pas, etc. C'est vraiment comme une reconnaissance.
C'est un prix de lecteur.
C'est un prix de lecteur.
C'est une reconnaissance de lecteur,
c'est
un
plébiscite
de lecteur, on peut dire ça. En fait, tout au long d'une saison de lecture, on lit 15 premiers romans québécois, puis 15 premiers romans francophones hors Québec.
Ils ont été choisis comment ?
Ils ont été choisis par ce qu'on appelle des grands lecteurs, c'est-à-dire des gens qui font une veille littéraire pendant toute une saison, toute une année. Ils vont lire tout ce qui se publie en termes de premiers romans québécois et premiers romans francophones hors Québec. Et ils vont décider d'isoler de toute cette production 15... titres dans chaque catégorie, et de proposer ça donc à des clubs qui se forment en librairie ou à l'UNEC, parce qu'il y en a un aussi à l'UNEC, à l'Union des écrivains.
On va en parler dans quelques secondes.
Et donc l'idée, c'est qu'en fait, on se réunit comme ça, un groupe de lecteurs, donc on est 16 dans notre groupe, et on se réunit aux 3 semaines pour débattre, discuter, échanger autour de ces lectures, de ces 15 premiers romans.
Des débats parfois...
Animés.
Hein?
Animés, passionnés, quand il s'agit, lors de la dernière séance, de choisir de voter en fait pour nos meilleurs. Ouais, chacun des lecteurs, des membres du club se bat âprement pour défendre la cause du livre qu'il a préféré en fait. Donc voilà, l'idée c'est en effet que ces primo-romanciers qui ont été plébiscités par l'ensemble des clubs, c'est qu'on puisse les rencontrer lors du festival Métropolis Bleu. Et donc, c'est voilà, l'honneur que ces premiers romanciers ont, c'est de rencontrer des lecteurs qui les ont lus, qui les ont défendus et qui ont envie de leur offrir un premier tremplin, en fait, pour une première visibilité. Oui. Donc, c'est le principe.
Et dans votre club de lecture, d'abord, il y a combien de personnes? Tout le monde peut aller à ce club de lecture?
Oui, on est 16, en fait. J'aimerais en accueillir plus, mais au-delà d'un certain nombre, c'est difficile d'échanger, que tout le monde puisse prendre la parole. On réunit aux 3 semaines, entre 2h30 et 3h, mais on discute longuement des livres et faire en sorte que tout le monde puisse participer, au-delà d'un certain nombre, ça devient compliqué. Mais donc nous, c'est notre 4e année et j'ai des lecteurs qui sont avec moi depuis le début, mais il y en a d'autres qui ont quitté pour des raisons personnelles ou aussi bon, la saison de lecture. Et puis il faut quand même partir sur un marathon de lecture. 30 livres, c'est quand même pas rien. Et donc, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui, pour des raisons, des grossesses ou toutes sortes de raisons qui font qu'on a un petit peu moins le temps, ont quitté. Donc, il y a des places qui se libèrent. Il y a voilà, l'idée c'est on peut nous contacter via notre blog ou en appelant la librairie ou en nous visitant pour éventuellement s'inscrire sur la liste d'attente.
Si un jour je prends cette retraite que je pense ne jamais prendre, je vais penser à vous. Et puis il y a aussi autour de la table, bonjour Stéphanie. Stéphanie Lemettez, vous aussi vous représentez l'UNEC.
Oui, c'est ça.
Et il y a aussi un club de lecture à l'UNEC, donc qui fait partie de cette même organisation là.
Tout à fait, oui. Nous, c'est notre 3e année.
D'accord.
Et donc, le même concept, en fait, que Marine.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis, en fait, l'Union, donc l'UNEC et l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, coordonne le volet québécois du Festival de Chambéry. Donc, c'est ça, développe. On est aidé aussi par d'autres organismes comme la LQ, l'Association des éditeurs de livres aussi, pour créer de nouveaux clubs et développer ce volet-là. Et puis, c'est ça, également, les auteurs plébiscités, enfin, le lauréat, guillemets, comme l'expliquait Marine, c'est plutôt un palmarès, mais le premier de la liste part également à Chambéry. Donc, il y a aussi une visibilité pour lui à l'international.
À l'international. Puis en plus, c'est une très jolie ville, ce qui ne gâche rien. Alors, justement, autour de la table, nous avons entre autres, parce que là, on n'a pas pu, j'ai pas pu obtenir la liste absolument de tous les livres qui sont lus, mais il y a au moins 2 livres, mesdames et messieurs, qui sont d'ores et déjà disponibles, ou actuellement, en fait, d'autres pour les précédentes années, mais pour cette année, il y a déjà 2 livres qui sont disponibles. Le livre d'Erika Soucy qui s'appelle Les Murailles. C'est sorti chez VLB, éditeur, donc c'est en audio adapté. Et également d'Elsa Pépin, Les Sanguines. Et je vais vous dire une chose, et je vous jure que c'est vrai, je termine toujours l'émission par ce qu'on appelle les rafales. C'est-à-dire que là, j'envoie le plus de titres possible pour que les gens aient une petite idée de ce vers quoi ils vont se tourner en lecture. Et j'avais rentré votre livre.
Oui.
Oui, absolument. J'avais rentré votre livre dans cette rubrique-là, Elsa Pépin, et jusqu'à ce que notre adorable recherchiste Anne-Laure Janson me dise « Ah, mais écoute, il y a une femme qui s'appelle Elsa Pépin, elle fait partie de ceux qui sont lus et son disque est adapté. » J'ai dit « Jocelle, elle est dans mes rafales. » Ben, elle me dit « Mieux que ça, tu vas l'avoir à ta table. » Bonjour Elsa.
Bonjour.
Alors vous avez signé un livre qui s'appelle Les Sanguines. C'est votre premier roman, mais c'est peut-être pas la première chose que vous écrivez.
Non, j'ai fait paraître un recueil de nouvelles j'étais à l'Amérique avant, mais j'avais commencé à écrire ce roman avant de publier le recueil de nouvelles, et ça m'a pris 5 ans à l'écrire, ce premier roman, avec évidemment plusieurs autres activités entre-temps, c'était pas à temps plein, mais ça a été une longue entreprise, et sans l'éditeur Antoine Tanguay chez Alto, probablement que ce serait pas un livre aujourd'hui, parce qu'il a cru en fait au projet, même quand c'était dans une première forme qui ressemble plus tellement à ce que c'est aujourd'hui.
Comme c'est souvent le cas.
Oui, mais c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment... quand c'est un premier roman, on veut mettre beaucoup de choses, puis on est aussi... Moi, je cherchais encore un ton pour mon écriture. Ouais. Dans la nouvelle, c'est 15 pages, 10 pages. C'est plus facile de trouver une unité.
Oui.
Alors là, c'était de faire passer des personnages à travers toute une gamme d'expériences qui demeurent cohérents, la psychologie demeure cohérente, tout ça, bon, avoir chaque chapitre à son lieu d'être. Alors, ça a été un apprentissage en même temps.
La nouvelle, c'est vraiment la porte d'accès au roman?
Pas forcément. Non, il y a des grands nouvellistes qui n'écrivent pas de romans.
Non.
Moi, j'ai une plus de facilité avec la nouvelle, mais je sais qu'il y a des gens qui vont directement au roman. Mais c'est évident que ça, en termes de temps, si on consacre... Bon, moi, je travaillais à temps plein pendant des années, alors c'est sûr que l'été, j'avais un peu de temps. Écrire une nouvelle, c'est plus... C'est plus réaliste qu'un roman.
Et on croirait entendre Agnès Gruda, qui était à votre place la semaine dernière, qui vient de sortir son deuxième recueil de...
Oui, j'ai adoré, d'ailleurs.
Moi aussi. Et je lui disais, mais alors à quand maintenant le premier roman? Et c'est ça, le problème, c'est la disponibilité aussi. Elle travaille aussi beaucoup. Parlons-en un petit peu, s'il vous plaît, avant qu'on revienne sur, sur cet événement-là. Parlons-en alors de votre premier roman, Les Sanguines. Tantôt, je vous ai pointé du doigt ce que n'ont pas pu voir les auditeurs alors qu'on s'entretenait avec Mme Vanier, c'est qu'il y a toujours des hasards dans cette émission-là. Et là, il y a encore une fois la gémellité. Alors là, c'est deux jumeaux là-bas qui partent, là, deux frères. Et là, il y a deux sœurs.
Deux sœurs, oui, mais c'est vraiment... le nœud, en fait, c'est leur relation.
C'est leur
vraiment,
relation.
C'est ça. Donc, en fait, je me suis inspirée à l'origine de la symbolique du sang, si on peut dire, en fait, la maladie du sang. J'ai vécu dans ma famille des leucémies il y a longtemps. Et puis, ce roman est en rien autobiographique, là. C'est vraiment une pure fiction, mais je me suis intéressée à tout ce que ça représente que d'être malade du sang en termes de, bon, le sang, c'est le lien filial. C'est, donc, être malade du sang, c'est un peu être malade de la famille. Puis, bon, je m'intéresse aux questions du legs, la transmission, de l'héritage familial depuis toujours dans mes écrits. Et donc, je me suis imaginée deux sœurs très, très différentes, mais même en rivalité, là, même tout oppose. Donc, une qui est peintre, mais qui n'ose pas vraiment peindre, qui est dans l'ombre de des peintres qu'elle copie.
Oui.
Et l'autre sœur, qui elle, beaucoup plus, toujours été à l'aise, qui est séduisante, qui est sûre d'elle. Et c'est cette sœur plus forte en apparence qui va tomber malade, qui va avoir une leucémie. Et c'est sa sœur, Sarah, qui peut la sauver en faisant une greffe de moelle osseuse. C'est la seule qui est compatible. Alors, ça, c'est le début.
C'est le point de départ,
c'est
ça.
C'est le point de départ. Donc, c'est comment est-ce que, en fait, la maladie peut transformer, exacerber des fois les relations familiales, mais aussi transformer les rapports entre frères et sœurs. Et moi, je l'ai vécu dans ma famille. Puis, puis mon objectif, c'était vraiment pas de faire un livre morose ou sinistre sur la maladie, alors qu'il y a des gens qui leur disent « j'ai écrit un livre sur le cancer », puis tout de suite, ils veulent pas l'ouvrir. Mais au contraire, je pense que, premièrement, on en vit tous, de près ou de loin, dans nos vies. Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi? Et puis aussi, de faire... Moi, j'ai essayé de faire quelque chose où ça devient, justement... Il y a quelque chose de générer aussi de la vie autour de ça. Parce que cette femme qui va donc faire une greffe de moelle osseuse, sa vie va être transformée, mais pas
aussi,
juste négativement.
Pas juste négativement.
Non.
Je vous rappelle que c'est Elsa Pépin qui est en train de nous parler de ce premier roman qui s'appelle Les Sanguines. Alors, un premier roman que vous avez lu, évidemment. Et je voudrais qu'on aborde le thème du premier roman. Parce que est-ce que vous avez l'impression que les gens, parfois, n'y vont pas, ne vont pas acheter un livre parce que c'est un premier roman? Ils disent « Oh, on ne le connaît pas trop ». Vous savez, un petit peu comme quand c'est un nouvel artiste, finalement, que ce soit en musique ou n'importe quoi. Est-ce que ce phénomène-là existe en littérature, Marine?
Assurément, je pense que le premier roman, pas qui peut rebuter les gens parce que c'est un premier roman, je pense pas que les gens aient d'a priori au départ seulement. Le premier roman, il est forcément moins visible. Il est moins visible parce que l'auteur, il est inconnu la plupart du temps. Il a donc pas publié avant et la place faite au livre dans les médias est assez moindre. Donc en fait, il est encore moins visible que les autres écrivains qui ont déjà publié et qui sont peut-être déjà reconnus. Donc c'est sûr que Le premier roman, c'est déjà en partant, c'est pas si évident. Maintenant, pourquoi moi ça m'intéressait en tant que libraire de créer ce club autour des premiers romans? Parce qu'on aurait très bien pu créer un club de lecture autour d'une autre forme, ou tout simplement apporter des choix de lecture à chaque rencontre. Ce qui m'a intéressée, c'était de revenir au, finalement à l'essence même de mon métier. C'est-à-dire que le libraire, selon moi, c'est un passeur, c'est quelqu'un qui va faire des découvertes et qui va permettre à ses lecteurs, à sa clientèle, de découvrir des choses, qu'elles soient donc des premiers romans ou non. Mais les premiers romans, s'il n'y a pas un libraire, un premier lecteur qui va le lire pour le transmettre, ça va être encore plus compliqué pour lui. Bon, et donc, pour moi, c'était une manière de revenir à ça. Voilà. Et,
autrement dit, c'est une bénédiction qu'il existe de telles initiatives pour des jeunes auteurs comme Elsa Pépin ou d'autres. Non,
bah oui, tout
Elsa.
À fait. Oui, oui. Oui, parce que c'est difficile, en effet, de la visibilité, surtout avec tout ce qui se publie. Puis,
c'est
mais,
ça.
Mais aussi, je trouve ça intéressant, j'imagine que ça doit être intéressant de comparer plein de premiers romans, parce qu'il bon, il doit y avoir des maladresses du début, mais il doit y avoir aussi... Moi, étant moi-même grande lectrice, je trouve qu'il y a dans les premières œuvres, peu importe lesquelles, oui. souvent un souffle vraiment très personnel oui, qui, oui, parfois, oui. après... on retrouve sous d'autres formes, mais il y a quelque
ouais.
chose de presque pur dans le...
Ouais, oui, oui,
dans
oui,
je,
oui.
je me suis lancée, puis ben, ça a donné ça la première fois que j'ai essayé d'écrire quelque chose.
Les anciens gagnants, les anciens auteurs dont on a parlé, certains, je pense à Daniel Grenier avec L'année la plus longue.
L'année dernière, hein? Oui.
Ça, c'était l'an dernier. Mm-hmm. Lui encore, on le retrouvait dans le prix en plus du gouverneur général. Waouh! Pour un premier roman. Bon, c'est vrai que lui aussi, il a beaucoup écrit
lui
avant.
Lui aussi,
il
avait écrit des nouvelles, tout à fait. Mais pour rebondir sur ce que disait Elsa oui. Tout à l'heure, c'est que je pense qu'en effet, c'est très intéressant de lire un 30 premiers romans parce qu'en effet, on leur trouve des points communs, de thématiques, des romans qui sont souvent très personnels, avec en effet beaucoup de maladresse. Mais nous aussi, dans nos choix, c'est qu'on essaye aussi de construire un discours littéraire derrière des choix, derrière des goûts, derrière des ressentis des lecteurs. C'est d'essayer de trouver ce que le roman a de promesses littéraires pour l'avenir. Oui. Donc quand on décide de plébisciter un auteur plus qu'un autre à la fin de toutes nos discussions, c'est aussi de penser, déjà, est-ce qu'il y aura un deuxième roman ? Est-ce que c'est un romancier en devenir ? Est-ce que c'est une œuvre qui est en train d'être construite, etc. Et non miser sur un livre. C'est sûr qu'on pense tremplin. On pense première œuvre pour une œuvre à construire.
Oui, eh bien, bravo. Je voudrais en citer d'autres, hein, s'il vous plaît. Chez la Reine, ça, c'était écrit
c'était
par
l'année,
monsieur
Oui, 2014-2015. Macabre, c'est ça. Alexandre Macabre, qui était publié à La Peuplade.
C'est ça.
Et puis la première année, on avait plébiscité Frères de David Clairson aux éditions Héliotrope.
Oui, dont on avait d'ailleurs parlé à cette émission-là aussi, je m'en souviens bien. Il vient de se passer 17 minutes. Oui, je sais, ça passe vite, mais qu'est-ce que vous voulez ? On n'a pas eu beaucoup de temps de parler avec vous, Stéphanie, par rapport à Malunek, mais de toute façon, je pense qu'on a dressé un petit peu le portrait. Tous les livres qui ont été cités, je le dis pour nos auditeurs et auditrices, tous ces livres-là sont actuellement au SQLA, hein, que ce soit le livre de Daniel Grenier, le livre d'Alexandre Mekeb, le livre de j'en oublie un, Erika Soucy, oui, j'en ai parlé, et puis Elsa Pépin, bien sûr, Les Sanguines. Ben, bravo encore une fois, bravo pour cette heureuse initiative. Merci aux gens de Chambéry aussi qui vont accueillir le vainqueur québécois. Alors merci à eux et merci à vous, Elsa, pas Morgane, Marine, voilà, et Stéphanie d'être
merci.
Venue. Merci beaucoup,
merci.
Au revoir.
Merci.
Des livres plein les oreilles, seconde partie. Rebonjour tout le monde, et dans cette seconde partie, il y aura d'abord Nicole Châtelain qui est bénévole ici, lectrice depuis quelques temps. Et puis nous aurons aussi une rubrique au sujet du Salon du Livre, puisque c'est cette semaine que ça s'ouvre le Salon du Livre. Alors on fera un gros plan sur les personnalités, sur les auteurs entre autres qui seront là, et sur les livres qu'ils ont signés et qui sont disponibles en audio adapté. Il y aura quoi ? Il y aura les titres en rafale, il y aura un extrait de livre. Cette semaine, j'ai choisi pour vous un extrait du livre Les Sanguines d'Elsa Pépin, puisque nous la recevions en première partie de cette émission des livres plein les oreilles. Mais tout de suite, eh bien, c'est l'heure d'accueillir Nicole Châtelain. « Bonjour Nicole.
Bonjour Clotilde.
J'étais ravie parce qu'on vous, vous a entendu une seule fois.
Une seule fois,
oui. Une si belle voix de lectrice comme
vous. Ah peut-être,
vous.
Oui, mais commenter les livres, c'est autre chose.
Ah oui.
Pas vraiment l'habitude.
Ah oui, oui, mais moi je suis en amour avec la voix de Madame Châtelain et je suis convaincue parce que vous en avez lu quand même quelques-uns ici, comme on dit depuis...
Beaucoup, mais de toute façon, j'ai une carrière de plus de 40 ans. Dans un micro aussi, puisque je suis interprète, j'étais interprète de conférence.
En plus.
Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, ma voix a été entendue par de nombreuses personnes.
Et aujourd'hui, elle est entendue par les auditeurs, les auditrices de Canal M qui en sont bien contents. Je voudrais que vous nous parliez du livre dont vous allez nous parler, qui, vous l'avez lu d'ailleurs.
Je l'ai lu, je l'ai enregistré ici.
D'accord.
Et en rafale, moi aussi. J'ai relu ce livre hier,
oui.
Avec un autre d'ailleurs, puisque je ne l'avais plus, celui-là, sous la main à ce moment-là, celui d'Agathe Le Noël, dont le titre est « Qui suis-je quand je ne suis pas moi ?», titre qui en dit long, et qui, immédiatement, quand on m'avait annoncé que j'allais le lire, m'a fait penser qu'il s'agissait de la bipolarité, de la maniaco-dépression.
Mm-hmm.
Alors, j'ai aussi relu très rapidement, puisque je n'avais pas ce livre sous la main, un livre de Jameson, qui est la grande spécialiste aux États-Unis, et qui est cité par Agathe Le Noël aussi, pour voir un petit peu pourquoi, quand j'ai enregistré ce livre, il m'a frappé plus encore, peut-être, 20 ans plus tard, que celui de Jameson.
Alors pourquoi ?
Parce que Jameson est une professionnelle de la santé, psychiatrie, psychologie, et tout ce qu'elle raconte dans son livre, c'est son histoire, mais son histoire avec les yeux et la tête de la scientifique.
Oui.
Et elle est toujours entourée de scientifiques. Alors qu'Agathe Le Noël a eu la chance de rencontrer, à certains moments, de bons psychiatres, eu de bonnes aides, elle surtout qu'elle a eu un entourage familial incroyable.
Mmh.
Je dis bien incroyable parce que, ayant été moi-même à côté d'une personne qui était maniaco-dépressive et qui a fait des crises, mais vraiment, à vous dire, mais c'est pas possible, cette personne n'est pas normale, je me dis que les gens qui étaient autour d'elle et qui ont été très patients, très gentils, très humains, comme elle le dit même de son mari, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup c'est très positif, quoi.
Oui, je comprends.
C'est extrêmement
positif.
Alors, elle, Agathe Le Noël, dans ce livre, elle nous raconte véritablement ce qui se passe dans sa tête à certains moments. C'est donc tout à fait personnel. Évidemment qu'elle a eu l'aide de Philippe Jeanmey, qui est aussi un spécialiste, quand elle a rédigé ce livre. Elle est elle-même rédactrice.
Okay.
Elle est devenue, elle avait commencé des études de lettres, d'autres études, etc., etc.
Oui,
et très souvent,
oui.
Elle a été marquée par ces crises qui, presque toujours, et ça, c'est des choses qu'on avait déjà remarquées depuis longtemps déjà, presque toujours ont été provoquées par des réactions très profondes, émotions très profondes, des décès, par exemple.
Oui,
décès du grand-père. Décès du grand-père, elle a 19 ans, je pense. Et ça y est, ça démarre.
Oui.
Et c'est là qu'elle apprend qu'elle est maniaco-dépressive. Et comme elle le dit elle-même, au début de ce livre, il lui a fallu de nombreux entretiens avec son psychiatre et son analyste, des années même, pour appréhender son histoire, arriver à accepter que l'on est maniaco-dépressif, arriver à accepter aussi qu'il existe certains médicaments qui aident, qui ne sont pas toujours parfait pour tous, puisque chaque cas est tout à fait particulier, mais et qui, à certains moments, ont des effets secondaires, quelquefois, qui sont pire encore que les bons effets. Mais elle a réussi, avec l'aide de tous ceux qui l'entouraient, de s'en sortir. Et elle-même, elle avait décidé. Alors, quand elle dit, par exemple, elle a cherché qui elle était, elle voulait savoir qui elle était quand elle n'était pas elle-même. Donc, elle est partie à la recherche d'elle-même, puisque Dr. Jekyll et Mr. Hyde,
n'est-ce pas?
Donc, deux personnalités dans un même corps.
Mais j'ai envie de vous poser cette question-là, parce que moi, je vois la bipolarité comme ça. Il y a les moments high, les moments hauts, les moments faibles. Quelle est la partie qui n'est pas elle?
C'est les deux, c'est la partie dépressive, qui est terrible. On l'a vu, moi je l'ai vu. J'ai vu l'ami habiter en face de chez moi, d'accord. De septembre à avril, elle était dépressive. Je voyais ses volets fermés à 7 heures le soir. Elle arrivait en retard au travail le matin. C'était la dépression, la partie dépressive est presque impossible à supporter. Partie maniaque, par ailleurs, donne des ailes.
OK. C'est celle...
C'est exactement, okay. c'est là ouais. que ces gens sont capables
de,
déplacer les montagnes.
C'est ça, exactement.
Capables de déplacer les montagnes.
Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, cette femme-là?
Au départ, elle était étudiante quand c'est arrivé d'accord. au début. Mmh. Ensuite, bon, elle a suivi des études en lettres, etc. Elle a eu la chance à un moment, alors qu'elle était vraiment... incapable d'aller plus loin. Elle a eu la chance qu'une amie l'envoie en Suisse travailler chez Baltus, qui préparait quelque chose. Et elle a été en contact avec plein de gens connus partout. Et dans ces crises maniaques, elle a presque toujours été quelqu'un d'autre. Ça a presque toujours été... Elle se retrouvait tout d'un coup... quelque part, et puis elle était sur scène, elle jouait. Donc elle a fait, elle a dû évidemment travailler énormément, mais elle a fait de tout dans la vie. Elle est devenue rédactrice. Elle a même pu avoir un enfant. Elle avait 36 ans quand sa fille est née, après beaucoup de difficultés. Mais ce que je trouve aussi intéressant dans ce livre que j'ai enregistré pour les malvoyants, finalement, c'est que il y a des choses qu'elle a découvertes et qui peuvent s'appliquer aussi à des dires.
D'accord.
Quand on parle de la normalité, par exemple, qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que la normalité? De même pour les aveugles, finalement.
Bien sûr, bien sûr.
Et comment, quand on n'est pas soi-disant normal, comment peut-on arriver soi-même à se définir un peu mieux et à être capable de passer partout, tout en reconnaissant que cette normalité qui est censée être imposée à tous et que l'on s'impose soi-même, comment on peut arriver à l'oublier, cette normalité, à dire que chacun est normal. Voilà.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des bipolaires et qui s'ignorent après avoir lu ce livre-là?
Bien sûr. Et en plus, qui refusent. De même pour Jameson, elle a refusé aussi. Et qui refuse. Moi, je sais très bien que dans ma famille, il y en a eu. Et surtout qu'il y a encore 60 ans, c'était vraiment des maladies mentales.
On n'avait pas compris, c'était des maladies mentales.
Donc, on installait les gens dans des asiles, des asiles d'aliénés. Donc, il y en a beaucoup encore. En France, il y a énormément de gens qui sont bipolaires. À peu près 4% de la population.
C'est énorme.
Oui.
Et des personnages très célèbres.
Très connus, Winston Churchill, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, c'est exactement ça. Berlioz, paraît-il, et beaucoup d'autres.
Berlioz, ça me dit... Alors, Nicole Châtelain, c'est toujours vraiment un plaisir. Il faut que vous veniez plus souvent. J'adore ça quand vous venez nous parler d'un livre. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'était « Qui suis-je quand je ne suis pas moi ?» d'Agathe Le Noël.
Et que je recommande.
Et que vous recommandez fortement.
Oui. Et en plus, ils auront ma voix.
Écoutez, en plus.
Que demander de plus?
Et gratos.
Oui.
Gratos, les amis. C'est ça, grâce au SQLA. Alors, vous toutes et vous tous qui écoutez cette émission-là, mais si vous n'êtes pas encore inscrits, ruez-vous là-bas, surtout que maintenant, grâce au CAEB, vous savez que le choix est encore beaucoup plus large. Hein? On a le droit à des centaines de milliers de titres, de romans, de magazines et tout ça. Alors, Nicole Châtelain, c'est toujours grand plaisir de vous recevoir. À bientôt.
Et ce fut un plaisir. À bientôt.
Au revoir. Alors, des nouvelles et des livres, et oui, gros plan sur le Salon du Livre 2016. Écoutez, ce serait difficile, il fallait que je passe en revue la programmation totale, on en aurait pour quelques heures. J'avais envie peut-être avec vous de regarder qui étaient les invités d'honneur de cette 39e édition et qu'est-ce qu'ils avaient écrit, ces gens-là, et est-ce que ces livres-là sont disponibles en version adaptée? Évidemment, je ne vous parlerai que d'eux. Il y a notamment une prolifique illustratrice jeunesse qui s'appelle Marion Arbona, qui est d'ailleurs une double finaliste au prix du gouverneur général en 2015, qui présentera l'éclatant album Sous le parapluie de Catherine Buquet, un album qu'elle a illustré qui fut publié ce printemps aux éditions Les 400 coups. Alors, parlons-en de cette illustratrice jeunesse. Il y a trois livres qui sont en braille. Alors, ils ne sont pas en version audio, mais j'ai quand même décidé de vous en parler. C'est d'abord La petite fille et le loup, et les loups, la petite fille et la jambe de bois, voyons donc, et puis Grégory, le petit garçon, tout habillé de gris. Alors c'est signé Marion Arbona, qui sera du Salon du Livre cette année, en tant que, je vous le rappelle, invité spécial, invité d'honneur même, devrais-je dire. Un autre invité d'honneur, on le connaît bien lui à l'émission, parce qu'il est déjà venu et il va revenir, c'est David Goudreau. David Goudreau, qui a publié d'abord La bête à sa mère et qui était venu nous en parler. Et c'est maintenant La bête et sa cage, hein, qui s'est paru il y a quelques mois. Alors, vous pourrez également éventuellement rencontrer Monsieur David Goudreau si vous vous présentez au Salon du Livre 2016. Il y aura aussi, parmi ses invités d'honneur, le plus français des écrivains américains, en l'occurrence Douglas Kennedy, qui sera présent avec son tout récent « Toutes ces grandes questions sans réponse ». Malheureusement, il n'est pas encore disponible, ce qui ne veut pas dire qu'il ne le sera pas dans quelques mois. Mais là, pour l'instant, il ne l'est pas. Par contre, de M. Kennedy, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons « Au-delà des pyramides », qui a été enregistré. Il y a aussi « Mirage »,« Cinq jours », Murmurer à l'oreille des femmes, Au pays de Dieu, Combien, Cet instant-là est également disponible, ainsi que Les charmes discrets de la vie conjugale. Voilà pour vous donner quelques envies de lecture autour de M. Kennedy. Également, Yann Martel, dont il a déjà été question souvent à l'émission Les hautes montagnes du Portugal, c'est Gérald Cousineau qui nous en a parlé au tout début de cette actuelle saison. Eh bien, je peux vous apprendre que Yann Martel a accepté de venir faire notre émission. Ça n'est qu'une question de semaine, voire de mois, mais il viendra lui-même en personne. De M. Martel, on peut avoir en livre audio adapté, donc en dehors des hautes montagnes du Portugal, mais que lit Stephen Harper, Béatrice et Virgile, l'histoire de Pi, évidemment, Self, ainsi que Paul en Finlande. Il y aura aussi une femme que vous aimez beaucoup, et c'est Catherine Mavrikakis. Elle aussi, d'ailleurs, elle a accepté de venir faire l'émission prochainement. De Madame Mavrikakis, on a L'éternité en accéléré, et puis N'oublie pas, s'il te plaît, que je t'aime. Vous pouvez donc trouver ces livres-là assez facilement via le SQLA. Son dernier opus, cette fresque sociale hallucinante qu'est l'apocalyptique Oscar des Profondis, d'ailleurs c'est une expression qu'on pouvait lire dans le Devoir, n'a pas encore été lu, mais il le sera certainement prochainement. Il y a aussi Norbert Spener qui arrive avec le bras le Détectionnaire, un ouvrage de référence unique dans lequel il recense des personnages récurrents dans la littérature policière mondiale. C'est aussi un ouvrage qui marque le 20e anniversaire des éditions à lire. De M. Spener, nous avons Scène de crime, enquête sur le roman policier contemporain. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est son dada. Et puis, pour finir aussi, je voudrais que vous sachiez que cette année, c'est un gros plan sur le Mexique. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Pour l'occasion, il y aura plus de 1000 titres ayant un lien avec le Mexique ou encore la littérature hispanophone en langue d'origine et en traduction française. Alors, il va y avoir des expositions sur le Mexique. Il va aussi y avoir, évidemment, bon nombre d'auteurs qui vont venir, dont Jorge Volpi. Et nous avons au SQLA de M. Volpi à la recherche de Klingzor, qui est une vertigineuse histoire de politique fiction. Imaginez-vous, un attentat manqué contre Hitler, un détenteur secret de la formule de la bombe atomique,
un scientifique qui se cache sous le nom de code de Klingsor, une course-poursuite à travers des axiomes mathématiques et philosophiques, bref, tous les ingrédients sont présents pour faire de ce livre à la recherche de Klingsor un petit chef-d'œuvre du genre. C'est signé, je vous le rappelle, Jorge Volpi, J-O-R-G-E-V-O-L-P-I, qui sera cette année du Salon du Livre 2016. Et puis, c'était annoncé en première partie. Je recevais un petit peu plus tôt à cette émission Elsa Pépin, qui signe un premier roman qui fait partie de ces livres qui sont lus et qui obtiendra peut-être la reconnaissance suffisante pour être présenté à Chambéry, qui est un petit peu le festival partenaire de cet événement autour du premier roman. Alors, en voici un extrait de ce livre qui s'intitule « Les sanguines » et je vous le rappelle, si vous avez manqué la première partie, qu'il s'agit beaucoup du rapport entre deux femmes jumelles, une femme flamboyante, une beaucoup plus discrète, et celle qui est la plus flamboyante des deux se retrouve un jour aux prises avec la leucémie. Et c'est toute la décision que va avoir à prendre sa sœur notamment, qui est la seule à pouvoir subir offrir de sa moelle épinière pour que sa sœur puisse en profiter pour la guérir de la leucémie. Sarah a cogné trois petits coups presque imperceptibles à la porte, même si elle sait que sa sœur laisse toujours la porte déverrouillée. Elle pénètre chez Avril en silence, retenant chacun de ses gestes, excusant presque son entrée. Seule sur le paillasson, elle se surprend à chercher un indice, un parfum ou une tonalité dans le bruissement des voix du salon qui indiquerait l'intrusion du cancer de sa sœur. Et puis elle se sent idiote à pister la maladie, toute seule dans le vestibule. Elle range ses bottes et son manteau dans le garde-robe quand Sacha arrive en coup de vent. « Sarah, toujours à entrer comme une voleuse. » Le rouge monte aux joues de la visiteuse qui jure intérieurement contre sa gêne trop visible. Elle souhaiterait rester transparente mais ne manque jamais une occasion d'attirer l'attention qu'elle cherche à fuir. À tant vouloir qu'on l'oublie, Sarah, une horloge trop bien réglée pour être humaine, éveille le soupçon et provoque l'effet contraire. La voix tonnante de Sacha a attiré Avril qui s'interpose entre sa sœur et son homme. Elle tend ses bras maigres vers Sarah, un pont jeté entre deux rives lointaines. La chaleur du corps d'Avril contraste avec la rigidité glacée de Sarah. La petite sœur devrait être enveloppante et réconfortante, mais elle n'a qu'une étreinte froide à offrir à son aînée qui ne se laisse pas facilement amadouer. Collée contre Avril, Sarah se fige. Elle est à l'arrêt. Toutes les valves sont fermées. Depuis sa rupture avec Baptiste, elle s'est coupée de l'énergie du vent, comme un moulin brisé dont les ailes ne tournent plus. Sarah sent que les battements de cœur de sa sœur sont en désaccord avec les siens. La discordance de leur pouls lui rappelle un souvenir. Elle devait avoir 12, peut-être 13 ans, et Avril près de 18. Cette nuit-là, Avril l'avait entraînée dans sa fuite, l'attirant dans des jeux dangereux dont Sarah était généralement exclue. Il leur était interdit de sortir les soirs de semaine. Sarah s'accommodait facilement du règlement maternel, tandis qu'Avril ne rêvait que de le transgresser. Avril avait invité Sarah à l'accompagner à une fête en lui assurant que d'autres filles de son âge y seraient. En réalité, elle souhaitait éviter de se présenter seule là où elle risquait de croiser un ex. Sarah avait cédé de guerre lasse, connaissant la puissance des caprices de sa sœur, même si rien ne l'ennuyait plus que ces soirées où chacun s'enivrait puis perdait toute inhibition. S'ensuivait un prévisible cérémonial d'aveux et d'épanchements affectifs des plus misérables. Mais secrètement, emmurée dans son silence sauvage, Sarah jalousait les folles échappées des têtes ivres. Voilà, c'était un extrait de « Les sanguines » du livre d'Elsa Pépin que je vous recommande pour sa teneur, mais pour son écriture aussi. Et il est désormais, depuis une semaine ou deux d'ailleurs seulement, il est désormais accessible et disponible via le SQLA en format audio adapté, gratuitement bien sûr. La semaine prochaine, je vais accueillir quelqu'un dont les livres obtiennent beaucoup, 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 beaucoup de succès. Il s'agit de Madame Anne-Marie Sicotte. Oui, ça vous dit quelque chose. C'est celle qui avait signé cette longue saga, épaisse saga, fort intéressante sur les accoucheuses. Vous vous en souvenez certainement. Et là, cette fois-ci, elle nous arrive avec un livre non moins épais d'ailleurs et non moins consistant, non moins historique. Ça s'appelle « Le charivari de la liberté ». C'est le tome 1 des tuques bleues. Les tuques bleues, ce sont deux tomes. Et c'est vraiment très fouillé. Hein. Je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Nous sommes en 1983. Il fait bon vivre en Bas-Canada, colonie prospère d'Amérique. Gilbert, instituteur à Montréal, et sa sœur Vitaline, qui vient de lier son sort à celui d'un marin de Saint-Denis, aspirent à une existence à la hauteur de leurs ambitions. Tout en se laissant entraîner sur le chemin périlleux d'une ancienne passion, Vitaline déploie sa sensibilité d'artiste. Quant à son frère, il s'est entiché de la plaisante Caroline, qui vend ses charmes, défend chèrement son indépendance et lui donne du fil à retordre. Cependant, l'orage gronde. Au risque de voir s'évanouir leur joie de vivre, le frère et la sœur s'unissent à leurs concitoyens de la province of Québec pour lutter contre le despotisme et l'arbitraire. La tragédie de la rue du sang reste impunie et le pouvoir militaire étend son emprise. Avec opiniâtreté, les députés patriotes à la Chambre d'Assemblée dénoncent les injustices. Fortifiés par la noblesse de leurs principes, les tuques bleues, comme on les appelle, les soutiennent en affichant esprit frondeur et ferveur révolutionnaire. Une coterie de profiteurs impose son pouvoir par la force brute jusqu'à commettre l'irréparable en 1837. Dès lors, les tuques bleues se métamorphosent en insurgés. Sous l'apparence d'une rébellion, une véritable guerre de reconquête fait rage. Vous l'imaginez, il s'agit là d'une fresque romanesque palpitante, sur fond d'épopée campée dans le Québec au temps des rébellions de 1837 et 1838, avec cette galerie de personnages créés dans le pays insoumis. Alors, on va avoir plein de choses encore à se raconter. Aurais-je le temps de passer en une semaine à travers ces deux tomes? J'en doute, mais peu importe, l'histoire est là et on aura surtout Anne-Marie Sicotte pour venir nous en parler la semaine prochaine. Alors, quelques titres en rafale. On va commencer avec « Mon âge est à inventer » de Geneviève Saint-Germain. Geneviève Saint-Germain, qui je l'espère, sera à un moment donné ou à un autre, une de nos invitées. « Mon âge est à inventer », libre propos. Aujourd'hui, l'espérance de vie s'allonge sans cesse. Passé le cap du demi-siècle, il reste toute une vie devant soi. Alors, autant commencer à y penser tout de suite, avec sa plume élégante et bien trempée. Geneviève Saint-Germain nous parle de cet âge, le sien, qui est à inventer. Elle partage, comme le ferait une amie, ses réflexions sur l'art d'avancer en âge avec grâce, ses confidences sur ce que sa vie lui a appris et les plaisirs sans lesquels le passage du temps serait rude. Alors, avec humour et sans détour, elle nous livre des propos en toute liberté sur la connaissance de soi-même, les joies de la cuisine, la recherche spirituelle et l'importance du parfum. Voilà. Alors, « Mon âge est à inventer », c'est un livre réellement à déguster, le témoignage éloquent d'une femme lucide qui a fait le choix du bonheur. Alors, le polar du jour, « Terreur domestique », une enquête de l'inspecteur Héroux, c'est de Guillaume Morissette. Après l'affaire Mélodie Cormier, le premier roman de la série sur les enquêtes de l'inspecteur Héroux, couronné de deux prix, l'auteur trifluvien Guillaume Morissette publie « Terreur domestique », ce deuxième roman policier qui se déroule à nouveau à Trois-Rivières, qui met en scène la même équipe d'enquêteurs. Terreur domestique est publié chez Guy Saint-Jean éditeur et ça vient à peine d'arriver sur la tablette des libraires que déjà Guillaume Morissette planche sur son prochain roman de sa série policière. Il souligne avoir eu carte blanche de son éditeur pour l'écriture de la suite. Alors, l'action de terreur domestique, tout comme le roman précédent, se déroule à Trois-Rivières, on l'a dit. Les lecteurs peuvent reconnaître plusieurs lieux connus d'ailleurs de la cité de la Violette et s'y identifier. Guillaume Morissette a fait plusieurs recherches avant de commencer l'écriture de sa série policière. Il a notamment rencontré des policiers de la sécurité publique de Trois-Rivières, en plus de visiter le quartier général du corps de police afin de bien connaître leur mode de fonctionnement, de même que les outils qu'ils utilisent. Il note « C'est de la fiction, mais il faut demeurer logique. Dans un roman policier, le lecteur n'acceptera pas si des éléments ne sont pas bien ficelés. » Si vous aimez les énormes bouquins, je ne sais pas combien ça représente en lecture, mais en plus je peux vous dire que c'est écrit très petit et que c'est à peu près 1000 pages. Et je peux vous dire que City on Fire, parce que c'est de cela dont il s'agit, de M. Hallberg, H-A-L-L-B-E-R-G, nous sommes à New York en 1977, c'est le roman d'une ville en feu. Écoutez, je n'ai pas pu, moi, le lire en entier parce que, ben, vous l'imaginez, faute de temps, il faut vraiment avoir du temps pour se plonger dans un bouquin comme cela. Mais le peu que j'en ai lu, j'ai adoré les personnages que j'y ai retrouvés. Il y a par exemple Mercer Goodman, il y a les Hamilton Sweeney qui sont une espèce de famille assez bourgeoise. Il y a Central Park qui joue un rôle important alors que des coups de feu vont retentir assez tôt dans le livre. Et il y a toutes sortes de personnages au départ qui ne sont pas reliés les uns aux autres. Rien ne les prédestinait à se rencontrer. Leurs histoires ne vont cesser de se croiser et de s'entremêler jusqu'au fameux blackout du 13 juillet 1977. Vous savez, cette immense coupure de courant qui plonge alors New York dans le noir, et leurs vies en seront bouleversées à jamais. On nous dit que City on Fire est une ode à New York, un roman flamboyant et inoubliable sur l'amour, la trahison et le pardon, sur l'art, la vérité et le rock, et sur cette interrogation. Qu'est-ce qui rend la vie digne d'être vécue ? Alors, il me reste une petite minute pour vous en proposer un autre. C'est Le doute de monsieur ou madame, je ne sais pas, Tremayne, T-R-E-M-A-Y-N-E. Tiens, il s'agit encore de jumelles. Un an après le décès accidentel de Lydia, l'une de leurs filles jumelles, Angus et Sarah Moorcroft décident de tout recommencer en changeant d'environnement. Ils rejoignent alors une petite île écossaise qu'ils ont héritée de la grand-mère d'Angus. Mais l'emménagement ne se passe pas aussi bien que prévu. Christy, leur fille survivante, se met à affirmer qu'elle est en réalité Lydia, sa sœur. Tout ça dans le brouillard écossais. Voilà ce qui met un terme à l'émission. Je suis très heureuse de l'avoir animée pour vous. Merci à tous mes invités et merci à mes amis qui ont collaboré avec moi. Merci.